France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui le milliardaire le plus célèbre du XXe siècle, Aristote Onassis. Il y a des gens qui veulent tout de quelque chose, d'autres quelque chose de tout, moi je veux tout de tout. Aristote Onassis. Ans d'histoire. Quand il se réveillait en pleine nuit à Scorpios, Onassis partait souvent se promener en compagnie d'un horrible chien trouvé qu'il avait appelé Vanna. Le milliardaire grec l'avait adopté sans doute parce qu'il était le seul habitant de l'île à ne pas s'intéresser à sa fortune. À quoi pouvait bien penser cet homme seul de 75 ans en regardant dans le port de Scorpios le yacht sur lequel il avait reçu les hommes et les femmes les plus riches et les plus puissants du monde. Peut-être à ses premiers dollars gagnés en Argentine et avec lesquels, à 25 ans, il était déjà devenu millionnaire. Peut-être aussi à cet été de 1959 à bord du Christina, quand il avait ému la Callas en lui racontant comment, 37 ans plus tôt, il avait dû fuir la ville de Smyrne pour ne pas être massacré par les Turcs.
Quand les Turcs ont attaqué Smyrne, personne ne se doutait de ce qu'ils allaient faire. En une nuit, ils ont détruit tous les quartiers. Ils ont incendié toutes les maisons, ils ont massacré tout le monde. Hommes, femmes, enfants.
Et ta famille?
Déportés. Emprisonnés et tués. Moi, je suis le seul à m'être enfui. Mon père était en prison, ma mère et mes sœurs croupissaient dans un camp de réfugiés. J'étais leur seul espoir. Pendant que les Turcs nous massacraient comme des chiens dans le port de Smyrne. J'ai vu des familles se jeter à la mer, implorer de l'aide et mourir. Cette nuit-là, l'enfant que j'étais est mort. Et je suis devenu un homme. Aristote Onassis.
François Forestier, bonjour.
Bonjour.
C'était l'extrait d'un téléfilm avec Gérard Darmon dans le rôle d'Onassis. Onassis, dont vous venez d'écrire une biographie publiée chez Michel Lafond. Onassis, le milliardaire le plus célèbre du monde au XXe siècle, mais dont les débuts sont peu connus. On ne sait même pas à quelle date exacte il est né. Ce que l'on sait en revanche, et ce que l'on vient d'entendre, c'est que les débuts de sa vie, sa jeunesse, a été dramatique avec ce départ de Smyrne au moment où les Turcs prenaient cette ville où il habitait.
Oui, a priori, c'était un enfant d'une famille bourgeoise qui avait une vie relativement banale. Et puis, quand il y a eu en septembre 1922 cette épuration ethnique provoquée par les Turcs qui se sont attaqués à toutes les communautés arméniennes et notamment grecques, à ce moment-là, il y a eu un massacre épouvantable sous l'œil impuissant des grandes puissances. Donc à ce moment-là, Aristote Onassis, qui était un jeune homme, probablement a changé sa date de naissance, puisque tous les enfants, tous les hommes de 17 ans étaient déportés par les Turcs. En revanche, il a prétendu avoir 16 ans, ou encore moins, et il a réussi à survivre dans cette marée de sang, puisque sur 400 000 personnes que la ville comptait, on compte aujourd'hui 190 000 victimes, ce qui a été absolument terrible et dramatique. Et en effet, je crois que c'est à ce moment-là qu'il est devenu un homme, puisqu'il il a réussi à faire libérer sa famille, et il s'est exilé seul, sans argent, il est parti à l'autre bout du monde.
Voilà, il part en Argentine, seul, comme vous dites, sans argent, il fait des petits boulots, il est plongeur à Buenos Aires, puis il va travailler comme câbleur à 100 dollars par mois dans cette ville. Et puis alors, 2 ans plus tard, eh bien, il est millionnaire à 25 ans. Comment est-ce possible, François Forestier?
Je crois que c'est un homme qui avait beaucoup d'entre-gens et beaucoup de ruses et beaucoup d'acuité commerciale. Son père était commerçant de tabac. et il a renoué des relations commerciales avec son père qui lui était resté en Grèce et s'est fait envoyer du tabac de Grèce, du tabac turc évidemment, qui était très apprécié. Or, ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que l'opium n'était pas du tout une denrée interdite. Donc, à l'autre bout du monde, on soupçonne que, évidemment, il y a eu un trafic d'opium assez important et que Aristote Onassis a réussi à faire importer probablement cet opium et certainement ce tabac dans des bateaux qui transportaient de l'alcool de contrebande, puisqu'on était pendant la Prohibition. Et tout ça est rentré dans un circuit qui était chapeauté par Joe Kennedy, le père du président Kennedy, qui à l'époque était un homme puissant et qui avait parti lié avec la mafia, on le sait. Et probablement cet argent vient de là. On n'a aucune preuve, on n'a que des soupçons, mais ils sont quand même très fondés.
Alors ce n'est pas le tabac quand même qui va faire son immense fortune, l'armement naval. Hein. Il s'intéresse aux bateaux, il achète des bateaux pour de rien du tout, des bateaux désaffectés, complètement pourris. Oui. Il fait d'abord, il s'intéresse à la chasse à la baleine, puis ça ne va pas marcher. Et c'est surtout le pétrole qui va faire sa fortune. Il est un des premiers à avoir compris le transport du pétrole, que ça allait avoir une grande importance en Saint Forestier.
Il y a deux choses qui l'intéressaient dans la vie. Il y avait le pétrole, mais il y avait les femmes. Et donc, il a toujours su se servir des rencontres féminines qu'il a faites pour avoir des buts commerciaux. Par exemple, il a rencontré une chanteuse d'opéra en Argentine qui lui a servi à faire de la publicité pour ses cigarettes, etc. En revanche, pour le pétrole, oui, ça a été le premier à avoir compris que celui qui possédait les moyens de transport du pétrole possédait absolument la puissance. Ça, c'était pas tout à fait clair à l'époque. Et donc, il a armé des tankers, des pétroliers, de plus en plus gros. Et évidemment, les Américains, les Anglais, les Français, en fait, tous les grands pays, ont été absolument irrités par l'arrogance de ce mythe.
Il n'était pas le seul sur le marché de l'armement naval, d'ailleurs, le rappeler. Il y avait un homme dont il a épousé la fille, sans doute pour cette raison, et qui était Livanos, il a épousé la fille pour rentrer dans ce milieu très fermé de l'armement.
Voilà, Livanos était un peu le parrain, pas dans le sens mafieux, mais simplement dans le sens autorité des armateurs grecs à New York. Il s'était installé à New York. Et c'était un homme d'une rapacité et d'une avarice proverbial. Tous les jours, il prenait le métro pour aller au bureau, il prenait les vieux gens. Bref, évidemment, pour Onassis, ça a été pain béni. Il est tombé amoureux de sa fille, il l'a épousée, Tina. Tina, qui à l'époque avait quand même 17 ans, et Onassis en avait presque 40. Donc c'était déjà un mariage assez étonnant, et qui a fonctionné d'ailleurs pendant des années, et qui a renforcé la fortune d'Onassis. Encore une fois, sa passion, les femmes et l'armement et les bateaux et le pétrole se sont conjugués dans ce mariage.
Alors sur son chemin, il va trouver un rival, son pire ennemi pendant 30 ans, qui est son propre beau-frère, Stavros Niarchos, qui avait épousé justement la sœur de sa femme, de la femme d'Onassis. Et alors qu'il était en train notamment d'un domaine dans lequel ils se sont affrontés, qui était justement le pétrole, il s'agissait d'obtenir l'exclusivité du transport du pétrole saoudien.
Je regrette votre Altesse, j'ai vainement tenté...
Ascalémy, Aristote Onassis. Il faut absolument que je vous parle.
Pardonnez-moi, je lui dis pourtant que vous étiez déjà occupé.
Aucune importance, monsieur Niarchos, c'était sur le point de s'en aller.
Qu'est-ce que tu fais ici?
La même chose que toi, je suppose.
Ça, j'en doute. Je représente le cercle des armateurs.
Félicitations. Moi, je me représente moi-même.
Pour vous résumer, vous aimeriez avoir l'exclusivité pour le transport de tout notre pétrole.
Exactement.
Notre pays est déjà lié à d'autres compagnies américaines. Par un contrat d'exclusivité. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur Onassis. On dit chez moi qu'Allah récompense les plus audacieux et punit les plus arrogants.
Moi, je suis orthodoxe chrétien, et chez nous on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ».
Et c'était un autre extrait du téléfilm de Giorgio Capitani sur Onassis et la Calas, la signature d'un contrat donc qui n'aura pas lieu, mais qui devait permettre à Onassis de faire main basse en quelque sorte sur le transport, en tout cas du pétrole saoudien, qui prenait de l'importance. Ce qui lui a mis à dos les Américains. Avec eux, il a toujours eu de très mauvais rapports, François Forestier.
Oui, parce qu'il avait racheté des navires tout de suite après la guerre, des navires de guerre désarmés, et les Américains ne voulaient pas vendre ces bateaux. bateaux à des puissances étrangères. Donc, c'était interdit tout simplement par les règlements. Donc, Onassis a trouvé, et d'ailleurs Niarchos, ont trouvé tous les deux une façon de détourner ça, de faire acheter ces bateaux par des hommes de paille, ce qui leur a valu à tous les deux des ennuis sans fin. La différence, c'est que Niarchos a eu l'intelligence de travailler pour la CIA, dit-on, et donc de se mettre dans les bonnes grâces de l'administration américaine et à payer une amende relativement légère. Enfin pour lui, hein, pour vous ça serait terrible et pour moi ça serait terrible, mais pour lui c'était plusieurs millions de dollars et ça s'est arrangé très bien. En revanche, Onassis, qui avait un caractère beaucoup plus entier, ça s'est très mal passé, ce qui du coup ça lui a valu l'inimitié des Américains jusqu'à son mariage avec la famille Kennedy.
Mmh. Ça, on y reviendra. Alors, vous citez Niarchos. Moi, ce qui m'a fasciné en vous lisant, François Forestier, c'est que vraiment, c'est deux frères, ou plutôt deux beaux-frères ennemis. Absolument. Ils ont passé leur temps à se bagarrer. Oui, c'était vraiment des ennemis jurés.
Oui, absolument.
Tous les deux milliardaires. On parlait plus d'ailleurs de Niarchos que d'Onassis à l'époque. Mais alors, c'est fantastique. Quand l'un construisait un pétrolier de 30 000 tonneaux, l'autre en faisait construire un de 32 000. Mmh. Quand l'un achetait un Greco, l'autre achetait
Un Velasquez,
c'est hallucinant cette compétition.
Et jusqu'à épouser les deux sœurs, enfin ça a été terrible. La différence entre l'un et l'autre, c'est que Niarchos était un homme qui courait après des titres de noblesse. Onassis, lui, n'en avait cure. Et je pense que chez Onassis, il y a quelque chose de plus. C'est un homme qui a vu le sang. C'est un homme qui, très jeune, à l'âge de 16 ou 17 ans, a vu quand même une ville quasiment détruite, avec des gens tués. Et ça lui donne une humanité que je ne retrouve pas chez Niarchos. Niarchos a été un grand, grand financier, un homme d'affaires extraordinaire, mais quelqu'un d'assez froid. Voilà.
Cela dit, beaucoup plus célèbre au début des années 50, plus people, on dirait aujourd'hui, que Onassis, jusqu'à ce qu'Onassis, justement, s'intéresse à un célèbre rocher.
Nous en étions à Noël, Michel Honorin, le cadeau de Noël le plus somptueux du monde et peut-être celui offert par le richissime armateur Aristote Onassis au prince Rainier et à la princesse Grace de Monaco.
Onassis a fait en effet refaire entièrement la salle de l'opéra de Monte-Carlo. Quand le prince Rainier lui a demandé le montant des frais engagés, il a simplement répondu « Ce sera là mon cadeau de Noël ». Par des indiscrétions, on a cependant appris que les travaux avaient coûté la coquette somme de 60 millions d'anciens francs.
C'est pas vrai, ils n'ont pas ça au paradis. Pauvre Crésus, pauvre Onassis, pauvre Getty. Pauvre Crésus, pauvre Onassis, pauvre Getty. Pleure le vent de décembre, chante le bois dans le feu. Y a des idées sous la cendre et des braises dans tes yeux. Avec cette peau de bête sur ta peau, tu ronronnes de bien-être, on dirait un chat qui fait le rodo. À propos, viens par ici.
Vive la vie,
c'est pas vrai, ils n'ont pas ça au paradis. Pauvre Crésus, pauvre Onassis, pauvre Getty. Pauvre Crésus, pauvre Onassis, pauvre Getty.
Marcel Amont, Pauvre Crésus, une chanson des années 70, à une époque, on vient de l'entendre, où on ne parle plus de Niarchos, mais où Onassis devient l'égal de Crésus, de Getty, et où il fait main basse sur Monaco. Son intérêt pour Monaco, c'était quoi?
Eh bien, c'est né d'abord d'une vexation. Il est arrivé à Monaco sur son extraordinaire yacht qui était le Christina, et il voulait installer ses bureaux au cercle sportif de Monaco. Et on lui a dit, mais non, écoutez, on le considérait comme un nouveau riche, ça ne les intéressait pas. Il a été vexé, et puisqu'on lui refusait l'accès au cercle sportif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté la plupart des actions de la Société des Bains de Mer, et il est devenu, en fait...
Le king de Monaco,
c'est le
titre d'un nouveau chapitre.
Absolument, ouais. Il est devenu le maître, et il s'est établi là, sur son bateau, et évidemment... Je vous signale quand même que Monaco a un intérêt majeur, c'est qu'on n'y paye pas d'impôts. Mmh. Donc évidemment, pour lui, c'était tout bénéfice.
Et puis là il dépasse Niarchos, de toute évidence, il marqué un point. Vous avez évoqué, François Forestier, ce bateau. Alors il faut en parler, parce que c'est absolument hallucinant. Le Christina, c'est sans doute le yacht le plus légendaire, le plus célèbre du monde, même encore aujourd'hui, on se souvient de son nom. Alors qu'il l'avait acheté... une bouchée de pain, n'exagérons rien, mais enfin pour lui c'était une bouchée de pain. Je crois qu'il avait acheté 50 000 dollars à peu
oui,
près.
Oui, oui, oui.
C'était un vieux rafio canadien, une corvette militaire. Une corvette. Et alors il fait carrément 4 millions de dollars de travaux dessus.
Absolument.
Et là ça devient un yacht de luxe.
Il y avait une cheminée avec des turquoises, il y avait des salons, il y avait une piscine, il y avait une piste de danse rétractable par-dessus la piscine. Enfin bref, c'était un lieu d'un luxe extraordinaire.
Il y avait, vous le dites, un bar circulaire meublé de tabourets recouverts de cuir de prépuce de baleine, hein, et dont les repose-pieds sont sculptés dans l'ivoire des cétacés. C'est absolument fascinant. C'est, hélicoptère, enfin un avion plutôt.
Un avion, oui, absolument. Mais il y avait une voiture qu'on pouvait débarquer par une grue, etc. C'est très simple. Il voulait en mettre plein la vue à tout le monde et il a réussi. C'était un bateau merveilleux. Le seul défaut de ce bateau, évidemment, c'est que vu le marbre, vu tout ce qu'on y avait mis, c'était un bateau très lent. Donc, quand on allait à New York, il fallait s'attendre à une traversée plutôt longue. Mais ça n'avait aucune importance. Il y avait, par exemple, systématiquement à bord, 9 sortes de caviar différents. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée.
Autre caprice, une île, Scorpios.
Oui, là, ça a été tout d'un coup, il s'est pris d'amour pour cette île, il l'a rachetée entièrement et il a tout fait. C'était une île où il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il y avait 3 bergers et 2 moutons. Et il a absolument tout fait. Il a planté des arbres, il a fait amener de l'eau, il a fait une piste, il a construit des maisons, il a mis des fleurs partout. Enfin, ça a été un jardin d'Éden absolument fait au millimètre, suivant ses goûts. Ça l'a beaucoup amusé, d'ailleurs.
Et une île et un bateau, ou alors il reçoit tout le Gotha d'Europe, du monde, hein, d'Hollywood, des acteurs à ne plus savoir qu'en faire. Un autre de marque aussi, qui était vraiment un habitué, qui venait tous les ans, c'était Sir Winston Churchill.
Oui, il l'adorait, tout simplement parce que, évidemment, Winston Churchill avait participé à l'affaire des Dardanelles, et donc il connaissait bien la région. Et surtout, il y avait un côté vieux sage que Onassis adorait chez Churchill. Et il pensait que Churchill servirait également à la carrière de son propre fils, Alexandre Onassis. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu.
Et puis alors, une étoile célèbre, justement, celle sans doute la grecque qui est avec lui, un des deux Grecs les plus célèbres du monde, qui l'invite dans une croisière en Méditerranée en 1959 et qui va enlever, quelques semaines plus tard, Paris Inter, Pierre de Lagarde, le 11 septembre 1959.
Rubrique de l'astronautique, une étoile a disparu. Pierre de Lagarde. Aristote Onassis a enlevé ce matin la Calas. Il est parti dans son avion personnel de Paris et il a atterri à Milan où l'attendait la cantatrice et qui était arrivée à déjouer l'attention des journalistes. Et elle était habillée d'un costume bleu et elle portait son caniche préféré, Mano. Elle a eu juste le temps de monter dans l'appareil du richissime armateur grec et aussitôt ils ont décollé vers Venise.
I'm giving no interview. Why did you cut short your trip?
Please.
Are you
going to
marry Mr.
Onassis? I said don't. I'm not answering any interview. Now stop it.
Et c'est la superbe voix de la Callas chantant en 1957. La Callas qui, 2 ans plus tard, montait sur le bateau de Onassis, qui l'avait invité et qui l'a littéralement enlevé devant, sous les yeux de son mari, parce qu'elle était mariée, la Callas,
voilà.
Lui aussi d'ailleurs.
Oui, enfin, le mariage d'Onassis allait plus très bien. En revanche, le mariage de la Callas allait très bien. Elle était mariée avec Battista Meneghini, qui était un homme un peu plus âgé qu'elle. Et
qui était l'homme qui l'avait fait découvrir.
Oui, oui, absolument, qui l'avait fabriqué, littéralement. Et qui s'occupait d'elle, de ses contrats, de tout. Et ils partent ensemble, avec Winston Churchill, bien évidemment, sur le Christina. Au départ, c'est une croisière qui dure plusieurs semaines. Au départ, évidemment, elle est avec son mari. À la fin de la croisière, elle sera dans la cabine d'Onassis.
Il faut dire qu'il lui en met plein la vue. Hein.
Ah ben, il a mis les bouchées doubles, là. Alors, c'était plus 9 sortes de caviar, c'était 16 sortes de caviar. Il y avait du champagne à flot, il y avait des orchestres. Il rencontre le patriarche Athénagoras, qui les bénit. Enfin, ça a été une croisière absolument mémorable. Et sous les yeux des invités qui étaient là, médusés, ils ont vu littéralement la Callas changer de lit. Enfin, ça a été un moment inoubliable. assez amusant, et en même temps, ça a été un grand scandale à l'époque.
Il lui fait de grandes déclarations d'amour. Je crois quand même, à vous lire, on a le sentiment, François Forestier, que c'est peut-être une des seules femmes qu'il ait vraiment aimée.
Oui, je crois. Je crois que ça a été une histoire d'amour absolument brûlante, passionnante. Ce sont deux êtres qui se sont découverts, déchirés. Malheureusement, tous les deux étaient des monstres, si j'ose dire, puisque la Callas était quand même une diva sur le déclin, puisqu'elle commençait à avoir des ratés dans la voix. Et Onassis, lui, il était parvenu au sommet, il n'avait plus grand-chose à conquérir. Je crois que cette rencontre a été un brasier, littéralement.
Cela dit, elle le flatte, le fait qu'elle devienne sa maîtresse, car il ne voudra jamais l'épouser, ça le flatte plutôt. Vous citez un ami de la Callas qui disait « Le nom de Maria est éternel, si une parcelle d'éternité descend sur Onassis, ce sera grâce à elle. »
C'est vrai, je le crois profondément. C'est-à-dire, s'il n'avait pas rencontré la Callas, je crois qu'il serait resté un millionnaire ou un milliardaire comme tous les autres. Mais la Callas lui a donné cette parcelle d'éternité en plus.
Et une liaison qui va durer 9 ans. Cela dit, quand même, il la trompe, la Callas, et notamment il la trompe avec la femme du président des États-Unis, alors que, tout simplement Kennedy, alors qu'il est encore vivant.
Oui, mais c'est-à-dire que...
Elle aussi, elle vient à bord du Christina.
Oui, mais bon, c'était une revanche sur la vie. C'est vrai que Jackie Kennedy était une personne extraordinairement désirable, belle et quasiment inaccessible. C'est vrai également que le mariage des Kennedy allait très très mal et qu'Onassis en a profité. Pour lui, c'était un sacre.
Et une liaison qui va s'officialiser 5 ans après la mort de Kennedy, France Inter, René Marchand et Jean Stricker, le 20 octobre 1968.
Eh bien oui, c'est maintenant chose faite. Madame Kennedy est devenue Madame Onassis. La mariée était en robe beige, les deux cierges de 2 mètres de haut, les fleurs de citronnier, les couronnes sur la tête des fiancés, les anneaux d'or, tout y était. Pendant ce temps, les hélicoptères faisaient la navette pour apporter les mets et les boissons et les guirlandes de fleurs pour les festivités succédant au mariage.
Françoise Arvanitis, vous savez comme nous que les réactions dans le monde ont été assez mitigées, disons. Savez-vous ce que vont faire les nouveaux mariés ?
En principe, M. Onassis et Mme Kennedy ont annoncé leur intention de passer leur voyage de noces à bord du yacht Christina, propriété de M. Onassis. Yacht qui est évidemment d'un très grand luxe et qui était équipé d'un hélicoptère, toujours prêt à s'envoler sur le pont arrière du bateau. Cette croisière nuptiale devrait avoir lieu en Méditerranée, mais l'itinéraire n'en a pas été fixé.
Et c'était le mariage d'Onassis avec Jackie Kennedy, un mariage qui a scandalisé la terre entière. François Forestier, Kennedy a été assassiné une deuxième fois, disait titré même un journal américain, car c'est les Américains qui sont le plus furieux hein, que cette veuve qui était devenue une espèce de vierge...
D'icône,
épouse Onassis, et un mariage qui sera très vite désastreux. D'abord, cette femme, qu'il épouse manifestement pour son argent, va littéralement, non pas ruiner, mais en tout cas, elle va lui coûter une fortune.
Oui, parce que c'était une femme qui n'était pas du tout, qui ne correspondait pas du tout dans la vie à l'image qu'on avait d'elle. C'était pas du tout la madone éthérée et la veuve qui n'avait aucun intérêt à la vie matérielle. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui s'intéressait aux bijoux, aux diamants, etc. Et donc, épousant Onassis, elle a quand même réussi à avoir d'abord un contrat étonnant où il y avait des arrangements financiers très importants. Et surtout, à la fin de sa vie, elle réussira à récupérer, à capter une partie de l'héritage avec une rapacité insoupçonnée. Ça a été quelque chose de... Enfin, méprisable, le mot est peut-être un peu trop fort, mais ça a été vraiment très dur et ça n'a pas du tout été plaisant.
C'est épouvantable. Vous citez par exemple la manière dont elle achetait sur le compte de son mari une dizaine de robes de grands couturiers, et puis sur le compte de son mari, et puis ensuite elle en rendait 9 et elle se faisait rembourser en liquide.
Oui,
neuf,
pour sortir des comptes.
Pour sortir des comptes, c'est absolument hallucinant.
Oui, oui.
Alors, elle a failli, je ne dis pas qu'elle a ruiné Onassis, il fallait le faire, mais enfin bon, en tout cas, ça ne lui porte pas chance. Hein. C'est assez pathétique les années qui ont suivi le mariage avec Kennedy. Il revoit malgré tout la Callas, qui reste malgré tout très complice avec lui. Mmh. Mais alors, il y a toute une série de catastrophes, il y a ses affaires qui vont mal, il y a un drame, la mort de son fils, Alexandre, en avion en 1973.
Oui, c'est un accident d'avion qui l'a littéralement détruit, puisqu'il pensait que son fils serait son héritier et reprendrait toutes ses affaires. Il l'avait formé pour ça. Et cet accident a été... terrible pour lui, terrible, terrible. Il a été voir les médecins, Onassis, et il a dit aux médecins « Si je vous donne toute ma fortune, tous mes bateaux, tout ce que je possède, sauverez-vous mon fils ?» Puisque le fils était dans le coma à ce moment-là. Les médecins ont dit non. Et là, Onassis a dit « On le débranche ». Il a fait débrancher son fils. Et ça a été... Je pense que d'ailleurs, c'est à ce moment-là que sa vie se termine, puisque tout de suite après, il est tombé malade. Il a eu une maladie nerveuse qui s'appelle la myasthénie, qui est une déconnexion des muscles. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'en aller.
Et il est mort en 1975 à l'hôpital américain de Neuilly à Paris. C'est assez pathétique les dernières années. On le retrouve seul sur son île. Vous le dites, il y a ce chien perdu.
Ce chien perdu.
Avec qui il se retrouve tout seul à Scorpios. Tout seul, non pas parce qu'on le boude évidemment, son argent intéresse toujours, mais parce que lui-même fuit un peu.
Non, je crois qu'il avait plus. La vie ne l'intéressait réellement plus. Donc la seule chose qui l'intéressait un petit peu, c'était d'être sur son île, de voir la mer, de se promener avec son chien, de manger un bout de fromage. Il n'était plus du tout l'homme flamboyant qu'il avait été. Il y avait une espèce de lassitude terrible. Et surtout, le mariage avec Jackie Kennedy, il avait aussi laminé, si je puis dire. Les seuls bons moments qu'il avait encore, c'est quelques minutes par-ci, par-là, un dîner avec la Calas qu'il allait voir à Paris et ma foi, qu'il l'a accompagné jusqu'au bout.
C'est assez pathétique aussi, même après sa mort, la façon dont tout le monde va s'arracher. Sa fille, sa pauvre fille, qu'il avait un peu négligée, qui était maladive, qui était sinistre, Christina, qui elle-même va mourir en faisant un mariage malheureux. C'est assez pathétique, cette fin. Et aujourd'hui, François Forestier, bien sûr, il y a d'autres milliardaires, peut-être sans doute encore plus riche qu'Onassis. Il n'y a plus d'Onassis, on a l'impression.
Non, il n'y a plus cette espèce de dimension extraordinaire, cette saga d'une vie hors du commun. Aujourd'hui, les millionnaires sont plutôt des gens discrets qui font de l'informatique ou quelque chose. Mais il n'y a plus ce côté totalement démesuré qu'avaient des gens comme Howard Hughes ou bien Aristote Onassis. Je pense que la race a disparu.
Merci François Forestier. Pour en savoir plus, je recommande votre livre « Aristote Onassis, l'homme qui voulait tout », publié aux éditions Michel Lafon. Vous êtes également l'auteur d'une biographie d'Howard Hughes, toujours édité chez Michel Lafon. Vous avez pu entendre des extraits de Calas et Onassis, de Giorgio Capitani, avec Gérard Darmon dans le rôle d'Onassis. C'est un téléfilm en deux parties, disponible en DVD chez France Télévisions. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas, documentation et archivina Claire Destacan, Claire Tesser et Sandra Escamez, une réalisation de Bertrand Chaumeton.